Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce que le gouvernement mondial se trouvera à Jérusalem un jour? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous enseigner aujourd'hui. Et je crois que vous allez trouver nos questions pas mal intéressantes. Alors imaginez combien les réponses vont pouvoir nous édifier et nous aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Voici nos questions. Est-ce que les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés de la même manière que ceux du Nouveau Testament? Est-ce que le jugement de Dieu contre Israël va cesser un jour? Est-ce que les croyants devront comparaître devant le Seigneur pour rendre compte de leurs œuvres? Est-ce que Dieu manifeste de la colère parfois? Comment est-ce que Dieu manifeste sa bonté et sa gloire? Devons-nous demander à Dieu de nous enseigner ses voies? Est-ce que le gouvernement mondial se trouvera à Jérusalem un jour? Y a-t-il des nations qui naîtront à Jérusalem? Est-ce que le malheur peut frapper le juste? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le Seigneur va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on veut te louer ensemble, te remercier pour la grandeur de ta parole, pour la puissance de ta parole dans nos vies. Enseigne-nous aujourd'hui que cette puissance se manifeste dans nos vies pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous trouvons deux courants de pensée au sujet des psaumes, et cela se manifeste en particulier avec ce psaume 85. Certains y voient le retour d'Israël de la captivité sous Esdras et Néhémie. D'autres, dont J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, considèrent que les psaumes sont prophétiques et les appliquent en général à la grande tribulation et au règne du Seigneur Jésus pendant le millénium qui suivra celle-ci. Cependant, tous sont d'accord pour dire que les Écritures s'adressent à nous. McGee distingue entre l'interprétation des Écritures et l'application de celles-ci. L'interprétation concerne la nation d'Israël et l'application s'adresse aux croyants de tous les âges. Nous allons mettre donc l'accent sur l'application. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean chapitre 17 verset 3. Voyons ce que le psaume 85 nous enseigne au sujet de notre grand Dieu. McGee donne un avertissement qui est toujours de mise. Il faut se méfier, comme la peste, des traductions de la Bible et des interprétations qui viennent de théologiens qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est inspirée, un souffle de Dieu, ce qui fait de Dieu son auteur malgré la participation d'instruments humains. Elle est sans erreur, claire et contient tout ce dont nous avons besoin de savoir en matière de foi. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 85, versets 1 et 2. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. La colère de Dieu envers son peuple ne dure jamais. La colère de Dieu contre les siens ne dure jamais à toujours. Il doit parfois châtier pour leur bien, mais lorsque la leçon a porté ses fruits, il retire sa main et rétablit son peuple. Tel qu'annoncé, il a ramené un reste de la captivité de Babylone et, à la fin des temps, c'est toute la nation qu'il rassemblera pour régner sur elle et avec lui. Verset 3. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Pause. le sang de Christ couvre tous nos péchés. Oui, chers amis, c'est le sang du Seigneur Jésus qui couvre tous nos péchés. Il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Il a versé son sang à la croix pour expier tous les péchés de tous ceux qui viendraient à Jésus-Christ. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés à crédit. Dieu savait que son Fils les rachèterait, donc Dieu leur accordait ses bénédictions à crédit, puisque le Fils se portait garant pour eux. Depuis la croix, c'est la carte guichet que le croyant utilise. Ils puisent dans les bénédictions déposées sur leur compte. Par exemple, la justice parfaite de Jésus-Christ est déjà déposée sur leur compte. Ils n'ont qu'à la réclamer par la foi. Verset 4. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Un jour, il n'y aura plus de jugement pour Israël. Il y a encore des persécutions à venir, mais un jour, il n'y en aura plus. Dieu l'a proclamé par ses prophètes et nous le croyons, d'autant plus que Dieu a souvent retiré sa colère contre son peuple. Nous voyons de nombreux cas de cela dans le livre des Juges. Le croyant sera jugé pour ses œuvres. Si, en tant que croyant, nous ne craignons plus un jugement qui nous enverra à la condamnation éternelle, nous ne voulons pas jouer avec le feu ni à l'autruche. Nous voulons nous tenir loin du péché. En effet, une chose me trouble parfois. Je devrais comparaître devant le Seigneur Jésus comme tous les autres croyants pour rendre compte de ma vie et de mes œuvres. Nos œuvres seront éprouvées par le feu, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. Je ne suis pas certain que toutes mes œuvres seront approuvées et récompensées. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul n'ait pas voulu se juger, car seul Dieu peut le faire. J'espère que le Seigneur me dira, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Pendant la grande tribulation, la méchanceté sera son comble et de nombreux jugements auront lieu. C'est pourquoi je préfère ne pas y être à ce moment-là, mais je ne crois pas que l'Église y sera. Versets 5 et 6. « Rétablis-nous, Dieu de notre salut. » Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Dieu manifeste de la colère, pas seulement de l'amour. Certains pensent que Dieu est amour et ne se met pas en colère. Chers amis, ce n'est pas le cas. Relisez les livres historiques de la Bible. Examinez ce qui s'est passé entre Dieu et son peuple. Regardez aussi le déluge. Regardez à Sodome et à Gomorre. Cependant, lorsque Dieu châtie Israël ou les croyants de l'Église, sa colère est temporaire. La miséricorde de Dieu est inépuisable. Elle se renouvelle chaque jour. Il retire sa colère lorsque son châtiment a fait son œuvre purificatrice. Le Seigneur Jésus est une victime propitiatoire. La colère de Dieu contre les péchés des croyants fut déversée sur la personne de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est appelé une victime propitiatoire, une victime qui apaise la colère de Dieu. Dieu est en colère à l'égard du péché de l'homme, et cette colère, c'est Christ qui l'a subie à notre place. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. L'épître de Paul aux Romains chapitre 3 verset 25. La colère de Dieu est réelle. Il n'est pas un Dieu bonasse, un vieux grand-père qui refuse de voir le péché chez ses enfants. » Dieu se met en colère, chers amis. Écoutez ce texte de Romains, chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Retournons au psaume 85, lisons le verset 7. « Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Dieu rendra la vie à son peuple, et aujourd'hui encore, il accorde des réveils à son Église, une Église locale vivante et remplie de joie. Beaucoup d'Églises ont besoin d'un réveil. Verset 8. « Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. » C'est le genre de prière que Dieu entend et répond. Dieu haït le péché, et il le jugera. Mais il manifeste aussi sa grande miséricorde et son salut envers ceux qui viennent vers lui. Verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Après le jugement dernier, le peuple n'aura plus de nature pécheresse et il ne retombera jamais plus dans sa folie. D'ici là, demandons à notre bon berger céleste de veiller sur nous, de veiller sur notre âme. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Dieu manifeste sa gloire en sauvant des hommes. Dieu révèle sa gloire à travers ceux qui le craignent. Il leur accorde son salut, et ils sont dans la joie. Leur marche attire les gens vers Jésus-Christ. C'est ainsi que la gloire de Dieu habite le monde aujourd'hui par la présence de ses enfants, la présence de son Église, la présence des chrétiens. Verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Après la chute, Dieu ne pouvait plus manifester ses quatre attributs envers l'homme. La justice demandait un châtiment pour le péché, et non la paix. Comment manifester sa bonté à des rebelles qui n'en veulent pas? Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ces quatre attributs peuvent se rencontrer et même s'embrasser. Verset 14. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Lorsque le Seigneur Jésus règnera, il le fera avec justice. Le psaume 86 est une prière de David. C'est notre prochain psaume. Cette prière est exceptionnelle parce qu'elle est la première à utiliser un nouveau nom pour Dieu, soit Adonai. Nous avons déjà vu le nom Elohim, qui fait allusion au Dieu créateur, et le nom Yahweh, qui réfère au Dieu rédempteur ou sauveur. Le nom Adonai est traduit « Seigneur ». Les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu, Yahweh. Alors les Juifs pieux utilisaient et utilisent encore le nom Adonai. Le nom réfère au Dieu sauveur et saint qui est capable d'être miséricordieux envers nous. Certains érudits considèrent ce psaume messianique car le nom Adonai est utilisé à 7 reprises. Cependant, J. Vernon McGee diffère d'opinion à cause de la nature de la prière. Selon lui, le Messie ne peut faire la requête du verset 11. Lisons ensemble le psaume 86, verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Chers amis, perdez-vous votre temps en futilité? En aucune façon. Est-ce que ce verset peut être appliqué au Seigneur Jésus? Il n'a jamais eu besoin de faire une telle requête, car il est venu faire et accomplir pleinement la volonté de son Père. Mais vous et moi pouvons et devons faire une telle prière. Nous avons besoin que les voies de Dieu nous soient enseignées. Voici notre traduction d'une citation de F. W. Grant sur le sujet. C'est ce qui manque partout chez le peuple de Dieu. Quelle partie de notre vie qui, sans être vécue dans le péché, est gaspillée en diversions vaines, ce qui nuit à l'efficacité de notre témoignage pour Dieu? Combien de nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, « Mais je fais une chose ». Nous sommes sur la route, mais sans avoir l'intention de nous en détourner, nous nous arrêtons pour chasser des papillons dans un champ de fleurs, et nous ne progressons presque plus. Satan doit s'étonner de voir qu'après nous être rendu compte que la gloire des royaumes du monde était une de ses tentations, et nous en être détournés, nous gaspillons notre temps en futilité sans réfléchir à ce que nous faisons. Si nous examinons nos vies attentivement, nous y décelerions les soucis inutiles, les devoirs que nous nous imposons, les récréations que nous nous permettons et les bagatelles innocentes qui nous distraient de la seule chose profitable. Très peu de personnes aimeraient que l'on examine chaque jour de leur vie pour voir s'ils ont été employés utilement. Fin de la citation. De nombreux ouvriers chrétiens sans vivre dans le péché grossier sont cependant paresseux. Ils s'occupent à toutes sortes de futilités et négligent ce qui est important pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils ne veillent pas au grain alors qu'ils servent le Seigneur. Nous devons prier et dire « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom ». La solution pour notre cœur divisé est de demander à Dieu « Enseigne-moi tes voies ». Ô Éternel, le Seigneur a promis de le faire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Le psaume 32, verset 8. Ensuite, nous devons marcher selon les enseignements de Dieu. Finalement, il recevra les louanges de notre cœur qui lui appartient entièrement. Verset 12 du psaume 86. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » Le psaume 87 est un psaume des fils de Corée qui traite de Sion, la cité de Dieu, et de l'avenir glorieux de Jérusalem. Les nations viendront adorer Dieu à Jérusalem. Chers amis, débutons notre lecture du psaume 87, verset 1er. Des fils de Corée, psaume. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Un jour, toutes les nations afflueront à Sion. Un jour, chers amis, le gouvernement du monde se trouvera à Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ésaïe chapitre 2 verset 2. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Zacharie, chapitre 2, versets 10 et 11. Nous sommes toujours dans la section des psaumes correspondant à Lévitique et l'accent est mis sur le sanctuaire, versets 2 et 3. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Nous retrouvons cette idée au psaume 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le psaume 48, les versets 2 et 3. Chers amis, revenons à notre psaume 87 et cette fois lisons le verset 4. « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. » Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Oui, chers amis, des nations naîtront à Jérusalem. Rahab, le mot hébreu traduit « Égypte », signifie « tumulte. Babylone signifie confusion. Ce sont deux puissances voisines de Sion, une au nord, l'autre au sud. Lorsque le Seigneur Jésus règnera, le tumulte et la confusion cesseront. Lorsque le Seigneur règnera, le monde viendra à Jérusalem et des nations se convertiront. Des nations naîtront à Jérusalem. Verset 5. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, fera de Sion la capitale de la terre entière. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Pause. Plusieurs se tourneront vers le Seigneur, se rendant compte que l'Antéchrist les avait trompés. Ce sera une époque glorieuse. Maintenant, le psaume 88 est une lamentation. C'est le psaume le plus triste du livre des psaumes. Débutons la lecture. Psaume 88, versets 1 et 2. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chandres, pour chanter sur la flûte. Cantique des mannes, les Srachites. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Dieu est notre seul espoir. Le psalmiste s'accroche à son seul espoir, le Dieu de son salut. Plusieurs personnages bibliques ont été proposés à qui appliquer ce psaume. Job, Osias, qui avait la lèpre, Jérémie, qui fut emprisonné dans une citerne, et Ézéchias, qui fut malade. Qu'importe qui est l'auteur, et qu'importe qui l'auteur avait en vue, ce psaume décrit une grande souffrance. Dans son affliction, l'auteur conserve sa confiance en Dieu, le Dieu de son salut. C'est le grand thème de ce psaume. Poursuivons la lecture. Allons lire le verset 16. « Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. » La situation du malheureux est fort peu enviable. Il est troublé et chargé de terreurs. Verset 17 à 19. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence, elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis, compagnons, mes intimes ont disparu. Voilà ce que Dieu fait, quelquefois. Il doit nous retirer, nous isoler, enlever amis, famille, afin que nous puissions le rencontrer, lui seul, qu'il devienne ton seul espoir, mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon espoir. Ce psaume se termine sur une note sombre, contrairement aux autres psaumes qui débutent sur une note sombre et terminent sur une note joyeuse et reconnaissante. Notez que le malheureux reconnaît que Dieu est la source de ses malheurs, car lorsque nous nous éloignons de Dieu, il peut nous châtier pour nous ramener à lui. Louons Dieu si nous sommes libres de troubles graves, mais ne nous enflons pas d'orgueil. Un jour, des malheurs pourraient nous frapper. Hébreux chapitre 12, verset 5. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu nous veut tout près de lui. Il va tout faire pour que nous ayons cette place d'être près de lui. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et méditant les psaumes 89 et 90.
Merci, Régent. Oh, mes amis, on en a reçu de l'instruction aujourd'hui. Toutefois, j'aimerais m'arrêter sur le fait que Dieu manifeste non seulement de l'amour, mais aussi de la colère. Je crois qu'on est tous portés à oublier ça. Il y a même des gens qui ne croient pas ça. Je le sais parce qu'il m'arrive de rencontrer des gens avec qui je partage l'Évangile et qui me disent que tout le monde va aller au ciel parce que Dieu est amour, parce qu'il est bon. Eh bien, c'est vrai que Dieu est amour, c'est vrai qu'il est bon, mais Dieu est juste. Imaginez si Hitler devaient passer l'éternité à la même place que tous les héros de la foi, tels que Moïse, Abraham, David ou les apôtres de Jésus. Mais encore là, Dieu est tellement bon que si Hitler s'était repenti sincèrement, s'il avait placé sa confiance en Jésus seul pour le pardon de ses péchés, il aurait pu, lui aussi, aller au ciel pour l'éternité. Mes amis, dans sa justice, Dieu devait punir le péché. Et on sait qu'on est tous des pécheurs. Paul nous le dit dans le 3e chapitre de son épître, aux Romains, au verset 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on veut voir clairement que Dieu est amour, mais qu'il est juste aussi, on n'a qu'à regarder dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, versets 6 et 7. Permettez-moi de vous le lire. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit le péché. » Mon ami, on est tous coupables, on a tous péché. Et Dieu, dans sa justice, ne peut pas nous déclarer innocents à moins qu'on reçoive son pardon. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a résolu le problème. Il l'a résolu en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Dans l'Évangile de Jean, au 3e chapitre, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même fait homme? Eh bien, je t'assure qu'il l'est. Et avant de venir sur cette terre, il était au ciel avec son Père dans la joie, dans la paix, dans l'amour, et il a accepté de venir ici-bas dans un corps d'humiliation comme le nôtre, afin d'être notre substitut, afin de subir lui-même la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés. Et avant de mourir sur la croix, il a dit, « Tout est accompli. » Mon ami, Jésus a tout accompli pour le pardon de tes péchés, de mes péchés. Maintenant, tu n'as qu'à placer ta confiance en lui seul pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts devant toi en ce moment. Il t'appelle. Il dit « Reçois-moi comme ton Sauveur, reçois-moi comme ton Seigneur. » Eh bien, fais-le aujourd'hui pendant qu'il n'est encore temps. Le Seigneur t'aime, il veut te donner la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.